Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut et bienvenue dans votre émission à bout de souffle. Pourquoi à bout de souffle? Tout simplement parce que déjà nous serons deux derrière les micros. Ensuite, parce qu'à la fin de l'émission, nous espérons bien que vous serez à court de souffle par tout ce que vous aurez entendu et appris. Et surtout parce que cette émission est un partenariat entre deux entités, Mon Paris FM et isnews.fr, deux entités promouvant la mixité sociale, les parcours atypiques et la réussite par le travail. Au cours de chacun de nos épisodes, vous aurez l'occasion d'écouter un acteur ou une actrice plus ou moins connue revenir sur son parcours, ses rencontres, ses réussites et ses échecs, des parcours qui, on l'espère, en inspirera plus d'un d'entre vous.
Là, je suis pas bien. Donc la morale, tu vas la faire à d'autres. Là, je suis pas bien.
Pour cet épisode avec moi, il est l'une des personnalités françaises les plus sympathiques du PAF dans le milieu depuis 2004. Ce qui le caractérise, c'est sa capacité à parler avec passion de tout ce en quoi il croit. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime moins, ce qui est sûr, c'est qu'il ne laisse pas indifférent. On pourrait le décrire comme un gars souriant, simple et accessible. Un homme de talent qui a su s'imposer partout où il est passé, que ce soit chez le groupe TF1 ou dans le 11 du Variété Club. Thibaut Vézérian est mon invité. Comment ça va, Thibaut?
Waouh, ça va super, super présentation, donc bah, ça va très bien, merci.
À la hauteur de ta personne, j'ai envie de dire.
C'est gentil.
Thibaut, ce que j'ai l'habitude de faire avec mes invités, c'est qu'on commence par une fiche d'identité.
Allez.
C'est-à-dire que c'est une fiche qu'on remplit ensemble. Est-ce que tu es prêt?
À fond.
Alors toi, tu es la fiche d'identité numéro 141-069-13, nom, prénom ou pseudo?
Thibaut Vézérian.
Date TV. De naissance?
Pseudo TV.
TV.
Les initiales.
Date de naissance?
6 avril 85.
Lieu de naissance?
Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine.
Profession?
Journaliste, créateur de contenu, producteur, entrepreneur. Aujourd'hui, on peut avoir plein de casquettes et tant mieux, auteur.
Ça en fait pas mal, effectivement. Passion, hobby?
Le football principalement. Beaucoup désormais depuis un an, le padel également, le nouveau sport de raquette addictif. Et puis, j'aime beaucoup regarder la NBA, le catch à la télé. Ça, j'en fais pas pour le coup, j'évite. en hobby, ensuite, passer du temps avec... c'est plus qu'un hobby, passer du temps avec ma femme et ma fille.
Talent caché?
Talent caché, non, j'ai des défauts cachés que je cache le plus loin possible, comme chanter ou danser. Okay. Je suis complètement incapable, il y a un problème qui est de motricité, de plein de choses. Mais talent caché, qu'est-ce que je peux te sortir comme talent caché quand même? Je suis très très fort au mini-basket de fête foraine, tu sais où il faut enfiler les petits paniers. Ouais, ça c'est vraiment caché.
Et pareil pour le pont ou juste le basket?
Ça va, c'est... Ouais.
Lieu de résidence?
Sèvres, dans les Hauts-de-Seine.
Réseaux sociaux?
Réseaux sociaux. Partout. Je crois qu'il m'en manque pas trop.
Comment elle se passe l'enfance de Thibaut Vézérian?
Elle est multiple parce que je suis né dans les Hauts-de-Seine. Puis le travail de mes parents a fait que je suis parti m'exiler. Toute la famille du côté d'Auxerre, déjà un bon club de foot parce que à ce moment-là, dans les années 90, c'était un très grand club français. J'ai eu la chance de vivre plus de deux ans là-bas. Ensuite, à nouveau, les aléas de la vie font que on est parti au nord de l'Auvergne, dans l'Allier, à Moulins, que j'ai découvert pendant une quinzaine d'années avant de... donc c'est là où j'ai principalement joué au football et sport-études. Je me suis épanoui en province tout en ayant quelques attaches dans la capitale. Et finalement, j'ai commencé mes études à Clermont-Ferrand, la grande ville d'Auvergne et une ville ultra sportive, basket, foot, rugby bien entendu. Et là, j'ai pu entrer de plein pied à travers ces années-là, juste après le bac dans le journalisme, en étant pigiste à ce moment-là, et finir mes études à Paris pour revenir travailler à Paris.
Et comment toi, tu l'as vécu, tous ces déplacements? Quand on est jeune comme ça, comment lui, il faut se refaire des amis, se réadapter?
C'est vrai que c'est un parcours. Maintenant, il y a pire. Et surtout, en fait, on se rend très vite compte que ça enrichit de folie. Connaître plein d'endroits différents, c'est la vie. Je ne sais plus qui avait dit le voyage vaccine contre le racisme. En plus, alors là, c'est des petits voyages, des petits déplacements de quelques centaines de kilomètres. Mais en fait, ça forge une curiosité peut-être naturelle et une volonté d'en savoir plus sur les gens qui vivent ailleurs, d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Puisque dans chaque ville, il y a une façon de vivre qui est différente. Et dans chaque quartier, dans chaque maison, en fait. Donc, c'est ça qui est beau.
T'as des frères et sœurs?
J'ai un grand frère qui vit aux États-Unis, à Atlanta, qui lui a fait un peu de catch, mais okay. Vraiment, puisque c'était le clin d'œil de début d'émission, et une petite sœur qui, elle, travaille en banlieue parisienne.
Et pareil, ta relation avec tes frères et sœurs et tes parents, comment ça se passe à la maison? Est-ce que c'est plutôt sympa?
Ouais, non, il y a les aléas de la vie qui font que il peut y avoir des chamailles, des problèmes de... Mais la famille est au-dessus de tout, et nous, on a une famille soudée, forte, je dirais, pour l'instant, intelligente. Et donc, je n'ai pas à faire larmoyer là-dessus. J'ai de magnifiques parents et frères et sœurs.
Tu es d'origine arménienne?
Ouais.
Ça a quelle importance l'Arménie pour toi? Il y a Charles Aznavour, pour qui c'était extrêmement important. Aznavour, ouais. C'est le seul à qui, un peu, on n'en voulait pas, finalement, d'être plus arménien que français, même s'il se disait d'être autant arménien que français.
C'est vrai, c'est très, très, très particulier, le fait d'être arménien. C'est le berceau de la chrétienté. C'est un petit pays de 3 millions d'habitants que personne en France ou presque n'arrive à placer sur une carte, parce que c'est enfoui au milieu de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, qui rêveraient ces deux dictatures d'en faire d'ailleurs un seul pays. Donc quand il y a un petit pays chrétien orthodoxe au milieu de ces géants-là qui ont envie de faire des affaires ensemble, malheureusement il y a des gens qui trinquent au milieu. Donc moi je suis descendant de grands-parents qui ont fui le génocide arménien, qui forcément ont eu ça en eux toute leur vie, c'est-à-dire cet instinct de survie, ce besoin de s'assimiler très vite à la France, à la culture française, qui les a accueillis de leur drame, qui est un drame familial, qui est un drame national, qui est un drame humain et qui dépasse aujourd'hui, on en voit d'autres malheureusement, d'autres drames à Gaza et ailleurs, et qui sont c'est des drames qui font écho en moi, puisque moi, sur plusieurs générations, on est marqué par ces déplacements de population, déplacements ethniques, culturel, religieux, tout ce que vous voulez. Donc oui, l'Arménie, c'est pas que la bouffe pour moi, c'est un petit peu plus. C'est aussi l'alimentation, parce que j'aime bien manger, mais c'est, ça va au-delà et c'est ancré dans les gènes. Ouais.
Et c'est quoi les valeurs qu'ils t'ont transmises, tes parents? S'il y a un truc que tu devais retenir plus que les autres, peut-être.
Puisqu'on en parle ici, c'est beaucoup le travail. C'est-à-dire que le travail représente une immense partie de chaque vie humaine aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la société est comme ça. Donc, travaillez, soyez sérieux, rigoureux, faites des études. Alors moi, je les ai surpris un peu, parce que finalement, après des années de CDI, comme vous le disiez sur TF1 LCI, je me suis mis à mon compte. Donc là, c'est un peu plus d'insécurité, c'est pas la sécurité sociale en effet, mais moi, c'est une liberté que je voulais, un travail dans mon travail, dans le milieu médiatique, c'est quelque chose que je voulais finalement obtenir une certaine indépendance par l'indépendance. Et j'ai plutôt réussi, et tant mieux, et on verra après où ça mène, parce que je ne m'interdis pas de revenir dans le salariat, etc. Mais moi, ma culture, on va dire familiale, c'était plutôt trouver un emploi. Il y a toute cette... après Seconde Guerre mondiale aussi, mes parents sont issus du baby-boom d'après-guerre finalement. Oui, il y a cette envie d'avoir un travail, une sécurité et de pouvoir être tranquille.
Travailler, tu le disais, tu étais quel genre d'élève à l'école, Thibaut, en élémentaire, collège, comment ça se passait?
J'avais quelques facilités, mais ça ne veut pas dire que j'avais 16 de moyenne. Donc je faisais ce qu'il fallait et j'ai très vite cerné que l'école n'était pas tout à fait une école de la vie. Le football beaucoup plus. J'ai tout de suite cerné qu'il y avait des gros manquements malheureusement dans l'école, et c'est-à-dire qu'on nous apprend plus à nous servir d'un compas et d'une équerre que d'apprendre la vie, de savoir à quoi sert une mutuelle, un chéquier, ou à créer une entreprise. Malheureusement, on aurait plus nous former à savoir créer une entreprise et comment ça se passe très vite, plutôt que savoir à quoi sert le théorème de Pythagore. Ça, c'est mon avis, parce que je n'ai pas retrouvé dans beaucoup, beaucoup de métiers que j'ai croisés dans ma vie professionnelle le besoin de connaître le théorème de Pythagore. Mais enfin, c'est un vaste débat. Donc moi, l'école, j'en ai fait un pseudo-allié parce qu'il fallait avoir des diplômes. Je les ai eus sans, entre guillemets, toute humilité, sans forcer, du 12, du 13 de moyenne. Et voilà, j'ai eu le bac mention assez bien, et bac économique et social, ça passait. Mais je m'enfermais pas jusqu'à 2h du mat à travailler. Je préférais aller taper le ballon au foot. Et j'en suis ravi d'avoir eu ce parcours, de ne pas avoir fait mieux à l'école, parce que ça me correspondait qu'à moitié. Mais j'ai fait de bonnes études quand même, et voilà, et je ne regrette pas.
Et justement, tu le disais, du coup, après l'école, quand tu sortais de l'école, toi, c'était le foot. Ta passion, vraiment, tu jouais au foot. Tu le disais, l'école, c'est pas l'école de la vie, mais le foot un peu plus. Qu'est-ce que ça t'a appris véritablement, le football?
Pourquoi le foot, c'est un peu plus l'école de la vie? C'est parce que vous rencontrez plein de gens extérieurs, d'origine extérieure, de culture extérieure. Vous avez le choix d'un coach envers 10, 15, 20, 25 gamins et qui fait ses choix en son âme et conscience et pourtant qui va briser des enfants mentalement, moralement. Il n'y aura pas, comme aujourd'hui, le coach mental, le nutritionniste, le community manager autour de cet enfant de 8 à 15 ans qui a des rêves plein la tête, qui va être bon au bon moment ou pas bon au mauvais moment, qui va être mûr, mature assez vite ou finalement pas assez. Et c'est pour ça qu'on n'apprend pas assez aux jeunes qu'il n'y a pas de parcours idéal, il n'y a pas de tu vas devenir pro si tu es en centre de formation. En fait, il y a plein de façons de trouver sa voie, de trouver son chemin. Nous, on parle aussi journalisme ici ou médias, c'est pareil. Il n'y a pas d'école qui va t'amener à être le présentateur du 20h si tu veux l'être. En fait, il y a X chemins. Et dans le foot, c'est ça que ça t'apprend avec le temps, que tu comprends. Il y a un coach qui peut être la hype du moment et qui, en fait, fait les mauvais choix. Mais ça passe et il est bien vu parce que le président lui fait confiance. Mais en fait, tu changes de club et c'est toi qui deviens le joueur incroyable. Quand on m'a parlé, d'ailleurs, il y a un an et demi de l'Arabie Saoudite qui allait acheter tous les grands joueurs de foot et que le foot européen allait être fini, j'avais déjà dit mais stop, le foot c'est un éternel recommencement, renouvellement, c'est l'histoire de la vie. Et donc oui, ça m'a appris plein de choses parce que je me suis pris des pains, parce que j'ai fait sport-études, alors c'est super, j'ai accédé à des très bons niveaux de U13 nationaux, alors ça s'appelait moins de 15 à l'époque, moins de 13 nationaux, et j'ai vécu, j'ai parcouru la France pour jouer des matchs avec des potes, et à cet âge-là, ça forge, c'est fondamental, mais il y a plein de matchs où tu joues pas, et des matchs où t'es pas bon, et des matchs où tu joues blessé parce que petit tu veux jouer tous les matchs, et finalement avec le recul tu te dis wow, quelle expérience de vie à plein de moments, de bâtons dans les roues, de freins, de détection où t'as pas été pris, d'autres où t'as été pris. Bon, c'est l'école de la vie.
Et il y avait l'ambition de devenir professionnel, tu le disais, t'as fait sport études, est-ce qu'il y avait cette ambition de devenir pro ou c'était plus...
Ouais, obligé quand tu fais sport études, que t'as deux entraînements par jour, 3-4 fois par semaine, donc je parle deux entraînements parce que t'as aussi le soir les entraînements avec ton club en plus du sport études. Tu es dans un moule où on te dit que tu vas faire quelque chose un petit peu dans le foot et où tu es tellement 4 heures par jour dans le foot, plus la classe où il n'y a que des petits footballeurs. Et nous, on était partagés classe sport-études foot et danse, que tu te dis forcément ce que tu vois à la télé, ça va être ça. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a Instagram, il y a toute la folie des highlights, des extraits courts. Avant, nous, c'était l'équipe du dimanche. C'était des moments marquants de la semaine de foot qui passaient une fois dans la semaine dans Téléfoot le dimanche matin, dans l'équipe du dimanche si on avait la chance de se coucher tard le dimanche soir. Et basta, donc on avait des rêves comme ça qui étaient éphémères et qui étaient ponctuels. Aujourd'hui, n'importe qui a tout le temps sur son téléphone de 13 à jusqu'au bout de la vie. Donc ça n'a rien à voir en termes de rêves et de croire... et de volonté. On était dans une autre société totalement. Aujourd'hui, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de petits footballeurs qui décrochent vite en se disant bah, « je ferai influenceur, je ferai... » Ils rêvent avec d'autres choses. Nous, c'était le foot, mais un autre football.
Et quand tu rentres à la maison, est-ce que tu en parles avec tes parents de toutes les difficultés que tu as pu rencontrer ou finalement c'est des choses que tu as découvert, comme tu le disais, sur le tard avec du recul?
Non, c'est la vie, le recul, c'est pas un sujet fondamental. Je sais que parfois j'ai eu des remarques après de mon père qui a beaucoup travaillé et qui est commerçant et qui du coup pouvait pas venir forcément voir beaucoup de matchs. Donc avec le recul, il s'est dit peut-être que j'aurais pu prendre le temps plus et peut-être que ça l'aurait aidé ou pas. Et en fait, est-ce que ça m'aurait aidé? Est-ce que ça aurait changé mon chemin de mec qui n'a pas réussi dans le foot? Non, et mon parcours dans le foot, j'en suis très content. Et aujourd'hui, ça ne m'empêche pas de jouer aussi avec plein d'anciens pros et d'être ravi d'être le plus heureux du monde. Et d'avoir... Donc non, il ne faut pas regretter dans la vie. Faut foncer, il y a des portes qui s'ouvrent, si elles sont ouvertes, c'est qu'il y a une raison, si d'autres sont fermées, c'est pas grave, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Moi, ça a été une philosophie, donc non, jamais je reprocherai quoi que ce soit, et je suis pas comme ça à en parler à mes parents ou quoi. Voilà, c'est la vie qui est comme ça, il y a pas de bon, alors il peut y avoir peut-être des mauvais parents, mais en tout cas, les miens, ils ont tout fait en âme et conscience, en pensant faire le mieux, donc ça suffit. Voilà, j'essaye de faire pareil, moi, avec ma fille.
T'as joué pendant 20 ans au club de l'AS Moulan, c'est ce que j'ai lu.
Ouais.
finalement. En tant que... c'est énorme, ouais. 20 ans quand même.
Je sais plus si c'est 20 ans ou 16 saisons. Ouais. Jusqu'à 20 ans, peut-être. Ouais, non, j'ai peut-être joué 20 ans. Parce qu'en fait, je faisais les allers-retours entre Paris, où je commençais à travailler, et je continuais, sans trop plus pouvoir m'entraîner, à jouer en réserve, etc. Donc, j'ai dû rester encore plusieurs saisons après 18 ans là-bas, à finir le temps que je pouvais encore un peu jouer au foot en club, même si après j'ai rejoint le club de Sèvres, où il y a une compétition de foot loisir qui me correspond aussi en termes d'emploi du temps désormais à mon âge avancé de 39 ans. Donc on mixe entre des matchs vétérans et des matchs de foot loisir avec l'Île-de-France qui regorge de championnats et de championnats FFF du dimanche matin au lundi soir, au jeudi soir, à 7, à 11, etc. On trouve chaussures à son pied.
Et également le Variété Club. Comment tu rejoins le Variété? Comment ça se passe? Est-ce que le Variété, en fait, on nous recrute? Tu joues avec des anciens pros, ouais, des légendes.
Alors, il se trouve qu'en effet, parmi les membres du Variété, j'en connaissais pas mal de médias, d'émissions qu'on a partagées. Je connaissais Jacques Vendroux de beaucoup de 20h foot, émissions que j'ai animées sur CNews avec Pascal Pro, ou qu'on a partagées. Et en fait, après avoir fait plusieurs discussions, interviews et travaux au sujet de Michel Platini et ses problèmes avec l'UEFA qui l'ont amené à être innocenté après tant d'années. J'avais travaillé là-dessus. Lui qui était aux variétés m'a proposé via son ami de toujours, Jean-Claude Collat, qui est vice-président du variété, d'intégrer ces matchs caritatifs. Ils ont vu que j'avais déjà participé à des matchs caritatifs pour d'autres entités, associations. J'avais un lien avec certains membres du variété et ça s'est fait comme ça il y a 4 ans. Et c'est comme ça que je joue très régulièrement, quasiment un week-end sur deux, un week-end sur trois avec eux, puisqu'il y a des matchs tous les samedis caritatifs.
Tu le disais, match caritatif. Nous, on s'est rencontrés à l'occasion d'un tournoi caritatif au trophée Clarins. Ça a quelle importance pour toi, en fait, le caritatif? Pourquoi c'est si important? Et comme tu le disais, Variété Club, trophée Clarins, tu as fait d'autres matchs avant.
C'est vrai que c'est quelque chose... qui est particulier, c'est-à-dire que dans les coulisses des médias, vu le nombre d'émissions auxquelles j'ai eu la chance de participer, puisque j'ai été de 2007-2008 en quotidienne à la télé jusqu'à 2021-2022, donc j'en ai vu des gens, des émissions, etc. Et je me suis dit quand même, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de paroles, et c'est bien de parler, c'est mieux de les faire. Et surtout quand on parle de santé, quand on parle d'enfants malades, quand on parle de handicap. Et ça m'a toujours touché le fait que, comme le handicap ne rapporte pas d'argent, on fait le strict minimum. Mmh. Alors la société française n'est pas la pire, il y a toujours pire ailleurs. Mais c'est quand même, moi ça me dérange. Ça me dérange que il n'y ait pas des priorités nationales un peu supérieures sur ces choses-là. Donc moi, petit journaliste, entre guillemets, dès que j'ai débuté, quand il a fallu, même pour LCI, faire des reportages dans les hôpitaux pour des opérations avec des clowns ou autres pour les enfants malades, j'y suis allé, on a filmé. Petit à petit, ma notoriété, en toute humilité, a grandi et on m'a proposé de participer à diverses opérations. J'ai toujours été touché par ça et j'ai toujours essayé de dire oui. Donc pour moi, c'est tout à fait... pas obligatoire mais naturel, et bien sûr que je vais pas le rendre obligatoire, mais c'est normal, et je me suis attaché avec plein de gens, et donc aujourd'hui je continue, des supporters aussi, donc c'est logique, c'est normal, et quand le temps est possible, disponible, eh bien il faut le faire.
Pourquoi le journalisme? Comment t'entres là-dedans? Est-ce que c'est une vocation? Est-ce que c'est une passion secondaire? Ou est-ce que tu te retrouves là par défaut, entre guillemets?
Le journalisme, c'est un vaste mot aujourd'hui qui représente des dizaines de métiers, des centaines de médias différents. Donc, il y a 100 000 façons de faire du journalisme. Donc, le journalisme, c'est vaste. Mais pour autant, quand j'étais petit, c'était « tu veux faire quoi ?» On en a parlé, footballeur. Le second truc, c'était journaliste. Alors, très souvent, comme pour beaucoup, on m'a dit « non, mais footballeur... oublie, c'est 1 sur 1 million. » Bon, ok, en effet, à force que ça me rentre dans la tête, peut-être que ça m'a fait ne pas être footballeur, parce que ça, y a aussi beaucoup de mental là-dedans. Mais journalisme, je m'étais toujours gardé ça, et on me disait aussi, non, mais ça aussi, c'est bloqué, oublie, en plus, t'es en province, et blablabla. Et en fait, certaines portes se sont ouvertes. J'ai tapé aux portes de journaux de presse régionale, on me l'a entre-ouverte, puis largement ouverte. Puis à la télé, en fait, je suis arrivé à LCI. Ils cherchaient un stagiaire en urgence parce que l'un d'entre eux venait de partir. C'était Jean-Claude Dacier, à l'époque patron de LCI, la chaîne Info. Je postule le lundi. Le lundi après, il m'appelle. Le mardi matin, j'étais en rendez-vous. Je commençais le jeudi. C'était voilà, l'urgence qui a fait que mon mail est tombé au bon moment, au bon endroit. Je postulais. J'ai appelé mon directeur d'école. J'étais en master en journalisme. Il m'a dit bon, on verra comment on fait. En effet, fonce. Et voilà, c'était une bonne opportunité. Ça s'est fait comme ça. Et je suis rentré par la petite porte. Et j'en suis sorti au bout de 10 ans de cette grande maison. Donc, le journalisme, c'est ce que je voulais. Avec les gens, parler aux gens, ça c'est le métier. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à force d'être enfermé en studio, j'ai eu besoin à nouveau d'en ressortir pour toujours faire des émissions, mais aussi aller au contact.
Et également, j'ai lu que tu avais commencé ta carrière au quotidien régional La Montagne.
Voilà.
Tu faisais quoi là-bas? Comment tu as été recruté là-bas? Comment ça se passe
Ça, pour la curiosité, à 18 ans, j'ai le bac. Je cherchais des petits boulots aussi pour financer les études. Donc, j'allais partir à Clermont-Ferrand comme je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je me suis lancé dans un DUT gestion et management d'entreprise jusqu'en licence. Puis après, j'ai fait un master de journalisme. Et en fait, ces années-là, pour avoir l'argent de poche, on pouvait avoir 35 000 petits boulots. Mais comme je connaissais déjà certains journalistes du journal La Montagne qui couvraient notamment les matchs de foot de l'AS Moulin, ce club où je jouais, bon, j'avais, on va dire, quelques connaissances parmi eux. Mon frère avait pigé quelques temps aussi pour ce journal. Donc j'ai tapé à la porte. Ça s'était bien passé avec mon frère. Ils m'ont dit, entre deux saisons, mois de juin, là, puisque tu es à l'arrêt 3 semaines, viens piger. Par contre, en revanche, ce n'est pas que du foot à couvrir, c'est de la presse régionale, locale. Il y a de la brocante du dimanche matin jusqu'à la messe de minuit à Noël, non-stop. Et donc, du vendredi soir au dimanche soir, en plus de mes études, 7 jours sur 7, je bossais finalement. Et je pigeais et je traitais tous les sujets avec plaisir, avec passion. Et ça m'a lancé puisque je suis arrivé ensuite en télé avec 3 ans à ce moment-là. Et puis, j'ai fait les deux pendant une année. Donc, j'ai fait 4 ans de presse régionale avec 3 ans d'expérience, un book comme ça d'articles. Et même si en parallèle, j'ai fait donc ce master de journalisme, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur le terrain.
Moi, ce qui me marque aussi dans ton parcours, c'est que du coup, tu es chez LCI et première émission d'actualité vue du web, LCI et vous. T'animes ensuite le Buzz où tu reçois avec Benoît Galeré et Bénédicte Le Châtelier, ceux qui font parler d'eux sur les réseaux sociaux. Ouais. T'animes l'œil du web sur LCI. Moi, là où je t'ai connu, c'est sur Touche pas à mon sport. Ouais. Où, pareil, tu réalises une chronique quotidienne où tu reviens sur les images fortes vues sur le web. T'iras chez l'équipe d'Estelle, pareil, sera la même chose, où tu reprends les tweets, etc. Finalement, en fait, le web, c'est...
On m'a collé un petit peu cette étiquette, en fait, par moment, de chroniqueur web, parce que j'avais ce feeling-là. C'est-à-dire que quand j'arrive à LCI en 2007, c'est la campagne présidentielle pour la victoire de Nicolas Sarkozy. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Jean-Claude Dacier nous voit, quelques jeunes dans la rédaction, un stagiaire. Et c'est cette année-là où il décide d'aller voir Christophe Beaugrand à l'époque, Damien Givlet, en leur disant... je vous mets 3 jeunes, vous allez créer la première émission d'actu vue du web. Vous désintéressez des journaux, de l'AFP, etc., de la façon de travail habituelle, et vous faites un JT par jour de ce qui se dit sur Internet. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas Twitter. Il y a Facebook où il y a quelques messages, il y a du statut, il n'y a même pas encore tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a un wall, mais sur YouTube, c'est encore des gens qui chantent sous la douche. Et on est sur des débuts, hein. C'est balbutiant, et il n'y a pas la fibre, donc c'est totalement différent. Et ils nous demandent de faire le JT de ce qui se passe. Donc on va du plus sérieux au plus rigolo de Paris Hilton, qui était la méga star mondiale à l'époque, pour ceux qui se souviennent. Et on en fait une émission qui deviendra une référence parce que ça devient une incroyable audience pour LCI, qui était une chaîne payante à l'époque. Ça fait un pic chaque soir. Ça devient une émission différente. On a été les premiers, grâce aux réseaux sociaux, à servir d'Internet comme moyen de s'informer en recoupant nos sources. On a été du coup dans cette émission les premiers à annoncer la mort de Michael Jackson plusieurs dizaines de minutes, voire heures avant l'AFP. On a annoncé pareil à l'antenne avant le service étranger de LCI, je l'ai annoncé le décès de Nelson Mandela parce que sur les réseaux sociaux en Afrique du Sud, il y avait déjà les médias qui en parlaient avec garantie. La mort de Michael Jackson, c'est pareil, c'était des garanties des médias étrangers. Et en France, ce n'était pas encore arrivé avec les vérifications. Et nous, on les avait faites en vitesse grand V, comme ça se fait aujourd'hui, un peu plus naturellement. Et on avait du coup plein de coups d'avance. Grâce à ça également, on a vu naître plein de nouvelles stars qui sont des stars aujourd'hui. On a offert sa première télé, vraie interview à Rémi Gaillard, qui a depuis quitté un peu les réseaux, mais qui était devenu une puissance incroyable de diffusion. Au Palma Show, Grégoire Ludig, David Marseille, qui sont devenus de formidables comédiens. On a fait faire leur première antenne à plein de nouveaux comédiens depuis maintenant, qui ont maintenant 10 ans de comédie derrière eux, mais qui s'étaient servis eux aussi des réseaux pour montrer leur talent, leur savoir-faire, etc. Et ça, donc, c'était super kiffant. Et on est devenu, avec la team Benoît Galeret qui est sur BFM et d'autres, une sorte de, entre guillemets, petit expert de dénicheur de talent, dénicheur d'infos avec un coup d'avance. Si bien que même Yann Barthès, qui est à l'époque sur Canal, jetait un œil via ses équipes à ce qu'on faisait la veille pour reprendre des vidéos, etc. Il y avait un petit jeu comme ça du chien à la souris parce que nous, notre kiff, comme on n'était pas sur la chaîne la plus regardée, c'était LCI en mode payant, eh bien, c'était d'avoir un petit coup d'avance, de dénicher. Et on l'a fait, et on s'est régalé à faire ça. Et moi, je me suis pris de passion pour cette forme d'information avec ce coup d'avance, de diffuser des tweets, d'avoir voilà, ce temps d'avance. Et finalement, ça m'a un peu suivi. Aujourd'hui, j'en suis un peu sorti. J'anime mes propres émissions, j'ai animé 20h foot. Mais oui, certains amis de travail comme Estelle Denis ont toujours aimé m'avoir aussi près d'eux en chroniqueur sur ce domaine-là que je maîtrisais bien et que j'aime aussi.
Pour les jeunes journalistes qui nous regardent, est-ce que tu dirais que c'est vraiment un métier à part ce que vous faisiez? Parce qu'on le voit aujourd'hui, Benoît Galeret, lui, il est encore dans ça avec le live Suite Tech sur BFM, ou ouais, encore il va dénicher ce qui se dit sur les réseaux.
C'est vrai, ouais.
Est-ce que c'est vraiment un métier à part, c'est autre chose encore?
C'est une autre façon de travailler. C'est-à-dire que on s'est vite rendu compte que les journaux papier, quels qu'ils soient, arrive donc le matin aux rédactions pour les matinales, et les matinales se servent de cette puissance médiatique papier pour créer aussi leur JT et découvrir le dossier du Parisien et en faire du coup un reportage et lancer des sujets pour la journée. Et les journaux finalement papier dictent le là de la journée un petit peu médiatique qui va être bousculée ensuite par des confs de presse, par des interviews sur les grands médias, etc. Et nous on s'est dit, mais Internet va beaucoup plus vite que ça. Si ça a été écrit, que ça a été publié un matin, par exemple les journaux de ce matin, ils ont forcément été écrits la veille entre midi et minuit. Donc l'info, elle date donc de la veille. Et nous, ce qu'on voulait, c'est aller contre ça, plus vite, plus vite, plus vite. Donc en diffusant des infos le plus rapidement possible, vérifier bien sûr et travailler, voilà, forcément, on avait un coup d'avance par rapport à ceux qui travaillent en rebondissant sur les journaux papier, comme ça se fait beaucoup toujours dans les matinales du monde entier. Donc je pense que ouais, c'est une expertise très particulière que Benoît Galeret a gardée, que j'ai gardée même si je fais plein d'autres choses et que j'ai maintenant mes propres infos et que dans le foot et dans le sport, on véhicule d'autres émotions, d'autres types d'infos. Mais oui, c'est une curiosité journalistique qui est particulière et je le vois avec les confrères, chacun, comme je le disais, il y a mille façons d'exercer le métier de journaliste, ça correspond à une façon.
Il y a des bonnes et des mauvaises façons?
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de... Comme dans tout, hein, chez les Arméniens, il y a des idiots, chez les Français, chez les journalistes aussi, hein, il y a de tout, c'est à l'image de la société, de la vie. Il y a des bons journalistes, des mauvais, d'autres qui s'aiment, d'autres qui ne s'aiment pas. Donc oui, il y a des façons de faire... il y a le journalisme qui se rapproche de la communication, aujourd'hui, c'est un gros gloubi-boulga. Il y a le journalisme qui est l'enquête permanente, totale, le reportage terre de guerre aussi, comment ça se passe sur place avec un casque par balle, etc. C'est encore une autre façon. Il y a le journaliste qui se montrera jamais à l'antenne et qui va pourtant faire un travail aussi brillant de préparation. Il y a plein de façons de faire, donc il y a plein de façons de mal faire aussi.
2015, t'arrives sur C8, qui je crois à l'époque s'appelait encore C8, qui avait déjà changé de nom, qui s'appelait C8.
D8, ouais, ça passait à C8.
T'arrives sur C8, comment ça se fait cette connexion?
Ça fait longtemps que Estelle Denis voulait recréer une émission de sport sur TF1 ou LCI. Je pense qu'elle a eu des discussions qui finalement n'ont pas abouti. Ça peut y avoir X raisons partout dans n'importe quelle entreprise. Quand Cyril Hanouna l'a appelé pour lancer cette émission Tout pas mon sport, qui se voulait à la base une émission d'infodivertissement autour du sport, avec la main sur sa bande, etc. Moi, il se trouve qu'on s'était souvent côtoyé à LCI, croisé dans les couloirs. On avait beaucoup discuté, elle rigolait de la façon dont on travaillait, avec toujours le sourire mais la volonté d'informer. Elle m'a dit, mais toi, tu as envie de travailler 40 ans en CDI dans la même boîte ou tu voudrais bouger, voir d'autres choses, d'autres façons de faire? Et je lui ai dit, allons-y. Ensuite, coup de téléphone de Cyril Hanouna, de C8, faut que tu fasses partie de l'équipe, faut que tu sois tous les jours à l'antenne. Ok, je me mets à mon compte et c'était parti en fait. Donc TF1, avec qui on a de super relation, LCI avec qui m'a lancé à la télé, qui a été ma maison mère, j'étais les voir, j'aurais dit bon, j'ai une nouvelle opportunité, faut que je parte. Ils m'ont dit, mais tu veux une augmentation en fait? Non, je ne suis pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça avec moi, donc non, je veux partir. Comment on fait? Normalement, c'était 2 mois de préavis. Je lui dis, ouais, mais leur émission, elle démarre dans 4 semaines. On s'entend bien, il n'y a pas de raison, ok. Et donc ça s'est passé royalement dans les deux sens. Ils m'ont même dit, et ça n'engage que ceux qui l'ont dit, tu reviens quand tu veux. parce que voilà, quand des choses se passent bien, et ben c'est comme ça que ça doit se faire. Je me suis parti assez vite à ce moment-là.
Et tu nous le disais en amont, tu te lances, tu es à ton compte là. Mmh. Comment ça se passe et comment un journaliste il est à son compte pour une émission comme Touche pas mon sport, t'es chroniqueur, mais t'es à ton compte.
Bah à ce moment-là, des contrats de prestation de service. Okay. Donc on peut monter sa société, on peut être aussi simplement pigiste, journaliste pigiste. Donc là, avec donc on est sous forme de mini CDD avec une forme ultra précaire. Moi, j'ai voulu monter ma société de production pour pouvoir aussi développer mes projets, créer mes propres émissions via aujourd'hui tous les outils qui permettent, comme Twitch, Kick, YouTube, TikTok, d'être en direct et d'être connecté au monde, de pouvoir faire venir comme une radio libre n'importe qui et n'importe quand en visio aussi dans sa propre émission. C'est ce que je fais avec le Dej Foot. Et en fait, c'est cette liberté-là qui m'a plu et donc il fallait passer par la création d'une société.
Et tu passes du coup par la création de cette société-là, tu restes sur Touche pas mon sport, tu fais
il y a deux saisons enfin elles sont pas bouclées parce que je sais plus exactement ce qui avait été dit à l'époque, mais C8 revoit sa grille notamment financièrement et les audiences sont top de Touche pas à mon sport, qui finalement passe en hebdo. Donc quand une émission passe en hebdo, on comprend là à ce moment-là que en effet c'était le samedi soir que on passe de quotidienne à hebdo, que ça durera pas 10 ans, mais c'est pour laisser place à l'émission C'est que de la télé, qui fera non plus que le sport à 18h mais toute l'actu. Quelques mois plus tard d'ailleurs, on me propose de rejoindre C'est que de la télé avec Julien Courbet puis avec Valérie Benahim pour une aventure magnifique de 3 ans où il y avait une alchimie totale aussi dans cette émission, où on parlait avec une liberté de ton de plein de magnifiques sujets d'actu. Donc ça m'a beaucoup plu aussi de revenir pas que au foot et de revenir aux premiers amours d'actu généraliste. Mais l'aventure Touche pas à mon sport était magnifique parce que les audiences ont tout de suite accroché, qu'il y avait un manège formidable de chroniqueurs qui se relayaient chaque semaine. Moi, j'avais la chance d'être le seul à accompagner Estelle Denis, à être là tous les jours. Donc c'était formidable de voir ça de l'intérieur, de voir le fonctionnement de Cyril Hanouna aussi à nos côtés au bureau non-stop, savoir comment il travaille. En fait, quitter le cocon familial de TF1 LCI a été génial parce que j'ai vu une toute autre façon de travailler que j'aurais jamais imaginé. Des émissions qui sont beaucoup plus produites, savoir qui dit quoi, à quel moment, sur quel thème, et non plus une simplicité comme en chaîne info où on fait rentrer les gens en plateau et puis on voit un petit peu plus ce qui se passe selon les questions posées. C'est de la production et C8 m'a apporté beaucoup là-dedans pour ensuite faire un mix de ce qui marche le mieux des deux côtés.
Ensuite, il y a l'équipe d'Estelle. Finalement, avec Estelle Denis,
on s'est retrouvés après. On s'est retrouvés après.
Vous vous retrouvez sur l'équipe d'Estelle. C'est elle qui t'appelle, c'est toi qui l'appelles. Comment ça se passe?
Il y a le Covid. Il y a le Covid qui passe par là, qui fait mal au monde entier. Mmh. Au niveau sociétal, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Moi, je me rends compte à ce moment-là que je ne sais pas m'arrêter. C'est-à-dire que je crois qu'on est au 15 ou 16 mars, hein, on est en premier confinement. Et le 20 mars, je me dis, mais il y a quelques mois, j'ai monté ma chaîne YouTube pour mettre une vidéo ou deux par mois. Je me rends compte très vite que c'est une vitrine pour moi. Je veux mettre quelques interviews supplémentaires parce que sur CNews, en chaîne info, on n'a pas le temps de diffuser des choses en longueur. Donc j'avais eu des rencontres avec Tony Parker. On a diffusé 3 minutes sur CNews. Moi, j'en ai diffusé 20 sur ma chaîne YouTube. Du coup, j'ai profité de ces moments-là pour activer une chaîne YouTube, mais il n'y avait pas assez de contenu. Et là, je me suis dit, mais ça y est, tout le monde est connecté, tout le monde a compris que c'était la visio avec. Ça a été l'explosion de la visio avec le Covid. Et donc, à partir du 20 mars, je me lance à faire des vidéos YouTube, à faire plus de directs, à lancer des émissions depuis chez moi que j'organise dans un bureau, un mini studio pour commencer, avant que ce soit un peu plus professionnel. Mais donc, ça a éloigné les gens, le Covid, et à la fois avec d'autres personnes comme elle, ça nous a aussi. Permis de se donner des nouvelles, de se retrouver, t'en es où et tu fais quoi et tu voudrais. Et donc moi, à ce moment-là, je perds mon contrat télé à CNews puisque le sport s'est terminé, on ne parle plus que de santé. Moi, j'avais déjà vécu plusieurs fois la couverture des attentats en France, malheureusement, avec LCI. Revenir couvrir des événements aussi anxiogènes, j'avais pas envie. J'étais dans le sport, j'avais des choses à montrer, à prouver, à faire dans le milieu du sport. Et donc, quand elle revient vers moi en me disant « Mais moi, malgré le Covid, on est installé, l'équipe d'Estelle, ça cartonne, chaque année, ça progresse. Est-ce que tu ne voudrais pas rejoindre la bande pour… » Pareil, comme chaque année, il y a des nouvelles têtes, on redynamise, etc. Elle m'appelle, on se voit une fois, deux fois. Et puis il y a 2-3 mois qui se passent et puis en fin de saison, bingo quoi, en fait on signe et on est ok sur cette venue à la chaîne L'Équipe, c'est passé comme ça et on a signé le contrat.
Et comment elle se passe, je crois que tu fais une ou deux saisons
Ouais, ça dure un peu plus d'un an parce que bon, ça a été en plus, il y a eu beaucoup d'événements, l'Euro 2021, il y a eu le Final 8 aussi à cette période, non, de mémoire, je sais plus comment ça
se passe.
Ouais, dès le mois d'août, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, donc ça a été un peu plus d'un an et demi de mémoire en mode 3 saisons. Quoi. Il y a eu plein de choses. Il y a eu le retour des gens dans les stades. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Je me souviens aussi d'être en direct au moment où Eriksen, le Danois, s'écroule en plein match de l'Euro. Enfin, vraiment hyper dur. Donc, j'ai vécu plein de belles choses à l'antenne avec eux. Même si c'est vrai que de plus en plus, en étant dans le milieu du foot, je recevais beaucoup d'infos, beaucoup de choses à dire et que j'avais ce costume antenne, tablette, réseaux sociaux, le lien avec les téléspectateurs, le lien avec les petites infos supplémentaires. C'était cool et parfois, j'avais envie d'entrer dans le débat. J'avais cette petite frustration de ne pas pouvoir en faire un petit peu plus à l'antenne ou d'être dans un autre rôle par moment. Donc, c'était aussi ça la question, après ce contrat, de savoir ce que je voulais faire. Et moi, à la fin de ce contrat, je n'avais plus trop envie de porter cette tablette vers les téléspectateurs. J'ai envie de développer mes contenus ou d'être à l'antenne pour donner des infos que j'ai.
C'est la question que j'allais te poser. En février 2021, tu annonces la vente de l'OM. Je crois que tu es encore chez l'équipe d'Estelle à ce moment-là. Quelques mois plus tard, moi je me rappelle, j'étais un féru de l'équipe d'Estelle. Vraiment, je regardais tout le temps l'équipe d'Estelle. Et j'ai l'impression que sur la fin de saison, et c'est la question que je voulais te poser, est-ce qu'on t'a mis de côté, parce que j'ai l'impression que sur la fin de saison on te voyait plus, mais c'était pas annoncé qu'on voit plus ou est-ce que c'est moi dans mon souvenir
non il y a une émission un vendredi de l'annonce, moi je l'ai annoncé 12 heures avant. Il y a émission comme tous les jours à 17h 17h30, l'actu est celle qui est du jour comme d'habitude, et sauf que l'actu du jour, ma vidéo a fait déjà plus de 100 000 vues et 5-6 heures après Canal annonce selon leurs informations que l'Olympique de Marseille en effet est vendu à un consortium saoudien. Donc ça confirme, le service investigation de Canal confirme, et finalement après moult rebonds politiques et problématiques qui font que le deal est repoussé, l'Elysée appelle Mathias Monteghetti pour lui dire donc Mathias Monteghetti c'est le journaliste de Canal qui était sur place,
qui était devant la commanderie
pour annoncer de lui ses propres informations. On ne se connaissait pas à l'époque, maintenant qu'il a les mêmes infos que j'ai données plusieurs heures avant et qu'en effet l'OM est vendu. Et là derrière, en fait, c'est lié aux incidents de la commanderie qui ont lieu moins d'une semaine avant. McCourt, la ville est à feu et à sang, entre guillemets, c'est du football, mais il y a un vrai problème au niveau de l'image. Les repreneurs ne veulent pas arriver dans une ville en feu à cause du club. Le vendeur ne veut pas partir avec un, entre guillemets, coup de pied aux fesses que les supporters lui mettent parce qu'ils en ont marre. Donc il a fallu pacifier tout ça avant de revenir et de remettre sur la table le deal de vente qui a pourtant été signé, puisque moi j'avais eu toutes ces confirmations-là. Canal a eu les confirmations derrière. Donc en effet, je n'ai pas participé à l'émission de ce soir-là, puisque on était en appel avec les sources, on était au téléphone donc avec le milieu politique qui disait il faut calmer le truc puisque les parties prenantes ne sont pas sont raccord sur le deal, mais sur le reste là il y a un problème d'image globale. Et donc c'est pour ça que Canal, qui avait annoncé son édition spéciale à 21h, prend l'antenne à 21h et raconte que et ne parle plus du sujet. Et moi on me dit bon, ne participe pas à cette émission là parce que ça va rentrer dans un débat dans tous les sens, et en fait c'est vrai que c'est contre-productif, c'est une protection vis-à-vis de moi de dire toi, tu as enquêté, tu as les éléments, mais d'un autre côté, il n'y aura pas d'officialisation tout de suite puisqu'il y a un problème. Donc, comment on fait pour sortir de ça ? Donc, une info balaye une autre, tu ne fais pas cette émission-là, tu reviens lundi, je suis revenu le lundi, j'ai fait toutes les émissions.
Et du y a coup, pas vous ne vous quittez pas du tout fâché. D'ailleurs, je crois que la fin de la saison, elle, Estelle Denis, à part sur RMC. Estelle Midi, Grégory Hacher pour reprendre du coup.
Ouais, ça devient l'équipe de Greg, l'émission change avec d'autres têtes, d'autres personnes. Puis derrière, il y aura aussi l'émission de Pierre Boubi à 16h qui va se développer sur la chaîne L'Équipe avant. Ils vont organiser la grille. Moi, j'ai rendez-vous aussi avec Laurent Prudhomme, le grand directeur général du groupe L'Équipe, avec qui on discute, qui même de lui-même me parle de l'idée du livre pour raconter toute cette histoire. Lui, il partira un an et demi après, deux ans après, prendre la tête de la direction générale de l'Olympique Lyonnais. Non, il n'y a aucun problème. Moi, partout où j'ai été, j'ai jamais eu de soucis. Après, il y a les seules personnes qui peuvent m'en vouloir, ne pas être d'accord avec mes informations ou quoi, c'est des gens soit que j'ai jamais rencontrés, soit avec qui j'ai jamais travaillé. À partir de là, c'est pas grave du tout. Et moi, j'ai mes certitudes concernant ce dossier, concernant l'imminence, concernant la fin de le tout est bien qui finit bien, puisque tout ce que j'ai annoncé au fil du temps et j'ai suivi avec passion et volonté de transparence et d'honnêteté vis-à-vis des supporters, c'est ce qui va arriver. Alors oui, c'est les affaires. En revanche, c'est pas du foot. Donc tous ceux qui suivent que le foot, forcément, ils sont un peu perdus sur ce type de dossier. Et quand en plus il y a des rebondissements foot, politique, géopolitique, économique, et un bazar total qui fait que je comprends qu'il y ait beaucoup de supporters qui se soient perdus avec le temps, qui étaient impatients et qui même se soient fait retourner entre guillemets le cerveau, parce qu'on a même prouvé à travers mon enquête qu'il y a eu l'utilisation d'armées numériques, comme avec Neymar au PSG, et des choses, etc. Donc aujourd'hui, quand en plus on vous rajoute des armées numériques sur ce type de sujet, ça veut dire qu'il y a des choses un peu à faire taire et qu'il y a des délais à respecter.
On le sait, l'OM en France, c'est un club populaire. Donc forcément, quand on annonce la vente d'un tel club et que derrière, ça ne se fait pas pour diverses raisons, il y a des représailles entre guillemets sur les réseaux sociaux. Comment toi t'as vécu cette période où finalement il y avait peut-être des menaces de mort, des insultes, comment tu l'as vécu à titre personnel et comment tes proches l'ont vécu?
Moi après j'ai toujours eu à travers mon parcours dans le foot ou autre un bouclier, ce qui vient de l'extérieur, de gens que je ne connais pas déjà, en fait à quel moment ça peut avoir un impact, où il faut prendre des conseils, des infos de tout le monde, mais à un moment il faut aussi prendre des conseils, des infos de gens qui connaissent soit votre travail, soit votre vie, soit votre personnalité, savoir qui s'intéresse un minimum à vous. À partir du moment où ça vient de l'extérieur et que c'est vraiment le café des sports, le café du commerce, voir des gens sous pseudo qui se cachent, voire même, ça a été montré ensuite, des journalistes qui utilisent des faux comptes sous pseudo pour faire passer des messages, là on est dans un délire et moi je m'en fous de ce bavardage-là. C'est un peu la rançon du succès. Maintenant, quand ça tombe en effet dans de la menace de mort, menace de violence, menace de mort, menaces envers la famille, là on est dans des trucs très graves en effet qui sont répréhensibles. On voit d'ailleurs aujourd'hui que 4 ans après les incidents de la commanderie, Jacques-Henri Hérault, qui avait assigné en justice les comptes qu'il avait menacés sur les réseaux, là ils sont traduits ces gens-là en justice, ça y est, enfin en mai 2024. Oh, ça montre qu'il y a eu des choses graves et j'en ai été victime aussi. Maintenant, il ne faut pas généraliser. C'est un pourcentage tellement minime de bêtises humaines par rapport aux gens qui sont intelligents que j'en fais pas. Je ne veux pas faire un zoom déformant de la réalité. Maintenant, oui, ça touche, ça surprend de l'ampleur. L'ampleur du sujet, j'en avais conscience. Ce que j'avais moins conscience à l'époque, c'est l'impact des incidents de la commanderie sur l'image, sur le deal, sur les problèmes que ça allait créer. Et aussi que beaucoup de gens n'étaient pas assez curieux du sujet pour seulement réduire l'enquête à une vidéo de 10 minutes qui était le point final. Et donc quand on parle d'une vente de société en effet, et quand on parle à des gens qui, c'est logique, qu'on parle forcément le background des affaires ou autre, une vente ça peut avoir diverses temporalités, ça peut englober plusieurs choses. Et donc oui, le mot vendu peut, dans la temporalité, ne pas être au présent, mais d'être dans un futur proche ou futur plus loin. Et ça, c'est le mea culpa, le vrai problème d'avoir que le point d'orgue pour certains de mon enquête soit une vidéo de février 2021, alors qu'il y a eu tout le suivi après et il y a eu 10-15 vidéos avant. Donc quand on ne suit pas tout, et parce que c'est trop compliqué à suivre, si on ne suit qu'un tout petit bout et aujourd'hui on picore que des petits bouts, ouais, le sujet est trop compliqué pour être picoré. Et ça, c'est peut-être ma faute et ma façon d'avoir communiqué qui fait que c'est un problème, puisque le mot vendu a plusieurs sens.
Justement, si c'était à refaire, tu le referais ?
Entièrement. Ah ouais.
Tout sans... pareil.
Bah, tout pareil, on fait tous des erreurs, personne n'est parfait, j'en ai fait, il n'y a aucun souci. Par contre, au niveau transparence, honnêteté, volonté de parler à tous, de discuter du sujet, d'être ouvert, de me confronter à tous. Là, je reviens encore de Marseille où j'ai vécu 3 jours fantastiques, accueilli comme un roi et bien trop d'ailleurs. J'ai été au local de supporters de l'OM, on a discuté là aussi, on a partagé des infos, partagé des bons moments entre gens passionnés. Ouais, ça n'a pas de prix, c'est ça la vie, c'est ça le métier aussi. Donc non, je regrette rien, c'est une aventure humaine et professionnelle formidable qui va aller au bout avec donc un livre que j'écris qui sera à la fois cathartique pour moi, c'est-à-dire, ça y est, j'aurai couché tout ce que j'ai vécu, travaillé, d'anecdotes, donc c'est formidable. On essaiera peut-être même de développer sous d'autres formats ce récit, on va voir, mais non, je ne peux pas regretter parce qu'en fait, j'ai été au bout des choses et la chance que j'ai eue, c'est que le premier fil rouge que j'ai tiré, le réseau que j'avais pour avoir des infos, je retombe sur mes pattes à la fin puisque c'est ce qui va être révélé et ce qui va être rendu public. Donc ça, c'est top.
Ensuite, il y a la création du Déjinfo sur ta chaîne YouTube. Comment elle te vient, cette idée-là ? Pourquoi tu décides de... Bah, tu le disais, tu quittes les médias parce que aussi, tu n'avais pas cette liberté. En tout cas, tu ne pouvais pas parler de ce que tu voulais.
C'est complémentaire.
C'est
complémentaire, même si dans certaines émissions, on m'a donné un rôle précis et je l'accepte sans problème. J'ai ensuite reparticipé à des émissions sur Sud Radio, sur Énergie aussi, etc., pour parler foot, apporter mes infos et de façon ponctuelle. Mais donc je n'ai pas quitté les médias, je suis toujours dans l'univers complètement des médias, je suis toujours invité aux mêmes choses, etc. J'ai toujours les mêmes accès d'interview. Mais en revanche, j'ai créé ma propre émission. Et là, je me suis dit, si tu fais une émission de télé sur Twitch, YouTube ou Internet, quel intérêt ça aura pour les gens qui regardent, puisque autant garder un truc encore plus cher, plus riche, plus mieux filmé, avec meilleur éclairage, etc. Donc vu que je connais bien Internet, fais une émission qui se calque au code des réseaux sociaux et donc de la diffusion en direct, notamment via Twitch, tout en ayant ton background, ton énergie, ta passion et ton expérience qui vient de milieux plus mainstream comme la télé, la presse écrite, etc. Donc j'ai essayé de faire un mix des deux, c'est-à-dire le journaliste entre guillemets 15 ans d'expérience télé qui vous parle. En revanche, on va être à la cool comme ça se fait sur Internet parce que c'est la vraie vie et on se parle vrai. Et ça, je pense que dans l'ère actuelle médiatique et sociétale, les gens en ont besoin. Et le truc en plus, c'est comme une radio libre, chacun peut se connecter avec moi quand il veut, où il veut, de n'importe où. Du monde entier, il y a eu des gens, des supporters du monde entier qui se sont connectés en 3 ans d'exercice. Et ça me plaît beaucoup parce qu'il y en a qui sont énervés, il y en a qui sont fans, il y en a qui sont pas réveillés. Il y a de tout qui se connectent. Il y en a 2-4 par émission qui viennent donner leur avis sur un des sujets de l'émission ou poser une question autre que je n'ai pas abordée. Ça veut dire que moi, dans ma préparation de l'émission, je n'avais pas pensé à cette actu et que les supporters ont envie de parler de ça. Et ça, je trouve ça bien parce que parfois en télé, on est derrière la vitre, derrière cette vitrine et le toc-toc-toc de « non, mais on a envie que vous nous parliez d'autre chose aujourd'hui », il n'arrive pas ou il arrive le lendemain. Là, au moins, c'est en direct. J'ai encore fait une émission ce midi où j'avais un sujet Lens, PSG, j'avais Lyon, j'avais plein de sujets et finalement, tout le monde voulait savoir ce que j'avais eu comme info depuis Marseille le jeudi, vendredi en déplacement là-bas et donc je suis beaucoup revenu là-dessus. Bon, ben voilà, on s'adapte en fait complètement aux viewers.
C'est ta meilleure expérience ?
C'est la plus libre. Donc la liberté dans la vie, c'est hyper intéressant. La meilleure, non, il y a la bande, l'esprit de bande. Animé 20h foot, c'était un kiff royal. Je pouvais avoir, quand je l'ai fait seul ou avec Pascal Pro, un plateau de consultants, journalistes aussi qui un travail formidable, qu'on a des avis péchus, un débat à tenir. Donc en chef d'orchestre, c'est intéressant. J'ai aussi notamment vécu des super années dans C'est que de la télé sur C8 avec une bande incroyable, des super audiences à 18h. Et Julien Courbet, qui est un professionnel incroyable, à Valérie Benaïm, qui est aussi d'une bienveillance totale et qui a l'esprit news énorme. On apprend plein de choses. Donc en fait, moi, je me forge de toutes ces expériences et j'en ai plein qui m'ont plu et je bosse, on va dire, sur des aventures humaines. Et même si là, j'ai pas de bande autour de moi, la bande, ce sont les viewers, c'est les spectateurs
qui viennent voilà. Parler avec toi. Tu as également fait pas mal d'interviews pour le 12e homme, Orange. Ouais. Mathieu Di, Zidane, Gomi, Soumtiti, Dembélé. C'est laquelle l'interview la plus marquante? Est-ce que tu as une anecdote à ce sujet? Moi, j'aurais dit Zidane, je réponds
ouais,
pour toi.
Au hasard.
Je réponds Zizou. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué l'esprit?
Alors, pour le 12e homme, Orange, en effet, on a fait des perfs incroyables. On a fait avec eux, j'ai été en Afrique du Sud, j'ai été à Londres, j'ai été faire des interviews au beau milieu de l'Orange Vélodrome avec Gomis, avec Thauvin, avec Germain. Des rencontres formidables. Maintenant, comment ne pas sortir celle avec Zidane? J'ai eu la chance dans ma vie aussi, alors qui pour moi était mon idole, d'interviewer Ronaldo R9 pendant 15 minutes, seul à seul, en italien, je parle un petit peu italien. Le bonheur total, c'était juste après sa carrière, 2010 de mémoire, 11, quelque chose comme ça. Et en fait, là, j'étais en mode, il faut être journaliste, mais Ronaldo, pour moi, c'est... R9, ça dépasse tout. C'est pour moi, c'est le plus grand joueur de mon histoire, de mon foot à moi. Zidane, j'ai toujours eu un respect immense. C'est 98, c'est la frappe au-dessus de la hanche contre le Bayer Leverkusen en finale avec le Real Madrid. C'est incroyable. Maintenant, je n'avais pas cette petite pression que j'avais en rencontrant Ronaldo. Tout est super bien organisé avec Orange. On est à Madrid pendant 3 heures avec lui. On fait la surprise à 3-4 gagnants, je crois, de mémoire d'un jeu concours, de pouvoir eux aussi, en plus de mes questions, poser chacun une question à Zidane. Donc, il va y avoir plein d'émotions. Donc, je savais que j'étais un peu le chef d'orchestre de ça. Et en même temps, j'allais découvrir Zizou. Mais sans appréhension positive, négative, on allait voir. Parce que j'ai aussi été déçu dans ma carrière de journaliste, de gens dans d'autres sports aussi, que j'appréciais beaucoup en tant que sportif. Et après, en interview, c'était pas forcément les plus sympathiques ou les plus avenants, ou ils étaient malades, mal lunés. Ça arrive dans la vie, on va pas leur jeter la pierre, je vais pas les citer justement. Mais Zidane, quand je suis arrivé, je crois qu'on était au maquillage un peu en même temps, en fait, il dégage quelque chose. Un charisme exceptionnel. Un homme différent, en fait. Je me suis dit, wow, il a l'auréole au-dessus de la tête. Il a quelque chose de différent. Donc, ouais, là, c'est une des rares interviews où je me suis senti par moments subjugué spectateur. On est toujours, on a l'oreillette parfois à l'oreille, on surveille ce que dit l'intervenant, on sait la prochaine question qu'on va poser, comme toi tu sais la prochaine que tu vas me poser. On est toujours dans là, le coup d'après, on surveille tout, on vérifie la technique même en même temps alors que c'est pas notre rôle. Voilà. Là, il y a 2-3 moments sur, on a eu donc plusieurs de longues minutes avec Zidane où je me suis mis et je me suis revu d'ailleurs les bras croisés en train de le regarder et de me dire, il est bon. Ah, il est bon. Ah ouais, là, vraiment, ce qu'il dit est hyper intéressant. Et à un moment, de faire wow, oui, mais du coup, alors après, alors c'est pas passé comme ça, c'était dans ma tête, mais c'est ces moments-là où tu te dis, ah, il est
incroyable. je lisais aussi une interview de toi où on te parlait de ce qui te reste à accomplir, des rêves en tout cas qui te restent à accomplir. Mmh. Et tu disais, je cite, j'adorerais rencontrer le footballeur Roberto Baggio. Il y a un parcours particulier, il est devenu bouddhiste, il est rare dans les médias et les anciens joueurs parlent beaucoup plus librement. Le boxeur également, Mike Tyson, parce que c'est un monument. Et The Rock, l'ancien catcheur, tu nous le disais.
C'est vaste,
tu nous le disais en début d'interview, tu étais fan de catch, avec ton frère d'ailleurs, toi et ton frère. Vous êtes fan de catch. Est-ce que depuis cette interview, il y a un des trois rêves là que tu as réalisé ou,
Non, pas encore. Trois... Alors, je n'ai pas forcé les portes de ces gens-là. Parce qu'en plus, dans la vie, moi, toutes les choses sont faites très naturellement, spontanément. Les portes s'ouvrent ou se ferment, comme je le disais. Donc, Roberto Baggio serait une vraie mission parce qu'il est devenu bouddhiste. Il a vécu des hauts et des très, très bas dans sa carrière avec de multiples blessures aux genoux. Jamais il aurait dû revenir à de tels niveaux. Il y a des anecdotes complètement dingues de sa carrière, j'en ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube aussi. Et donc lui, c'est en tant qu'homme et en tant que joueur, je crois encore plus que Ronaldo R9, celui qui m'a par son personnage, par sa vie, le plus marqué, et peut-être lors de la Coupe du Monde 94, j'avais 9 ans, mais qui m'a définitivement fait, c'était déjà le cas avant, mais fait adorer le football et complètement fait chavirer, et d'ailleurs qui m'a fait aimer aussi les parcours difficiles, sinueux, quand c'est trop beau, limpide, comme Ronaldo, R9, Messi. C'est trop génial toute ta vie, toute ta carrière. Il y a un côté robot qui me déplaît. Moi, je préfère quand il y a un chemin sinueux, quand il y a une expérience de vie un peu plus totale. Les genoux de Ronaldo R9 aussi. J'ai toujours des petits trucs comme ça, des chemins semés d'embûches. Je trouve que c'est plus la vie que ces robots. Et je les respecte, hein, mais Ronaldo R9, c'est incroyable. Les stats, le beau gosse, les dents blanches, il y a tout qui va. C'est pas possible, en fait. Non, mais voilà, c'est pour ça que je suis pas fan, mais fan au sens propre, au sens enfantin du terme. Et Roberto Baggio, c'était différent, c'est mon enfance. Et donc, ouais, si je pouvais le voir 30 ans après mon enfance, dans des conditions d'interview, j'aurais tellement de choses à lui dire. Mike Tyson, alors lui, c'est totalement différent parce qu'il a une vie complètement tumultueuse. Et une après-carrière où il s'est réinventé. Et c'est ça qui me plaît chez cet homme-là, parce que j'ai lu son livre, sa biographie, autobiographie de A à Z. Je crois que j'ai pleuré en regardant le docu et le film sur sa vie. C'est complètement dingue entre sa jeunesse, sa carrière qui part dans tous les sens, de plus jeune champion du monde des poids lourds, jusqu'à la drogue, les femmes, la prison justifiée ou injustifiée selon qu'on a étudié le dossier, les juges. Bref, ça part dans tous les sens. À son âge aujourd'hui, 50, 60, il va refaire un combat exhibition contre Jake Paul, il est toujours dans le show, mais il a monté je ne sais combien de business, il s'est réinventé, il est monté sur scène pour faire lui aussi son catharsis, sa purification, de raconter sa vie avec sa vision d'homme un peu plus mûr, mature, son mea culpa vis-à-vis de ses enfants, de diverses femmes. C'est lui aussi une source d'inspiration pour beaucoup de gens qui ont fait des erreurs comme tout le monde, plus grave que d'autres ou pas. Et Mike Tyson, donc j'aimerais être face à lui, discuter avec lui, lui poser des questions sur des points précis, puisqu'il y a plein d'anecdotes sur sa vie qui balancent des trucs. Et ouais, Mike Tyson, c'est une histoire. Et pour moi, c'est... alors, j'ai pas connu sur le ring Mohamed Ali. C'est pour moi le plus immense des combattants, sans égal. Et voilà, dans les sports individuels, c'est pour moi l'ultime.
On touche à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Thibaut Vézirian pour la suite ?
De continuer à travailler avec autant de passion, de sourire, d'être toujours entouré de gens avec ces ondes positives qui m'ont toujours accompagné. Et finalement, on verra les opportunités qu'il y a. Il y a 10-15 ans, on me disait déjà, ce sont quoi vos rêves dans les médias ? Et je répondais, mais on ne peut pas prévoir dans les médias. Il n'y a rien qui se prévoit. On ne peut pas se dire, je vais présenter le 20h, puisque c'est tellement hypothétique, même si on en a envie, ça ne sert à rien. Et il faut juste voir les portes qui s'ouvrent, foncer vers ses rêves, avoir des ambitions. Ça n'empêche pas. Donc moi, en effet, reparticiper à des émissions de bande, c'est un kiff. Continuer à développer les miennes, c'est obligatoire aussi. J'aime trop ça. Arriver à saisir de nouvelles opportunités aussi et rencontrer de nouvelles personnes. C'est ça la vie. C'est de croiser, alors d'interviewer de nouveaux artistes, sportifs, gens de talent, ça c'est chouette. C'est une facette du métier. S'entourer aussi de nouveaux talents, de nouvelles personnes, c'est une autre facette du métier. Rencontrer les bonnes personnes au bon moment, ça fait partie aussi d'un certain talent. Et donc on verra. Là aujourd'hui, j'ai déjà beaucoup beaucoup de casquettes, de choses à faire. On continue. J'aimerais dans les mois à venir, la sortie de mon livre sur tout ce qui s'est passé en coulisses de l'Olympique de Marseille sur ces 4 dernières années vis-à-vis de la vente. Déjà, ce sera un gros travail de fait qui va me libérer du temps pour refaire d'autres choses avec passion toujours. Et tant qu'il y a cette passion, il faut continuer.
On te le souhaite. Est-ce qu'on peut espérer un retour de Thibaut Vézirian à la télé en septembre?
Possible, ouais. C'est quelque chose de possible.
Ça se travaille, ça se discute.
C'est quelque chose qui s'est discuté déjà en décembre, qui n'était pas possible par rapport à mon emploi du temps. C'est quelque chose qui peut être remis sur la table et ça va très vite. Si ce n'est pas septembre, ça peut aussi être octobre, ça peut être novembre, parce qu'aujourd'hui en télé, ça bouge beaucoup, non-stop. Il y a des saisons, certes, mais finalement, il y a des modifications, améliorations et changements qui se font non-stop, on le remarque. On a vu l'arrivée sur TF1 de la matinale de Bonjour de Bruce Toussaint, qui a déjà été modifié, remodifié, amélioré avec des nouvelles têtes, alors que ça a 6 mois d'existence. Et voilà, et donc ça, c'est la vie de la télé aujourd'hui et de la société qui va toujours plus vite. société du highlight, du picorage et de l'extrait. Donc j'espère qu'il y aura plein d'extraits de notre...
Bah, il y en aura pas mal.
De notre discussion passionnante.
Arthur qui était à la réalisation, il a fait ça bien, donc on aura pas mal d'extraits. On va finir avec un jeu, je finis toujours avec un jeu avec mes invités. Je te fais des débuts de phrases et tu les complètes. Est-ce que c'est bon pour toi?
Allez, j'ai peur.
Le journalisme pour moi, c'est...
C'est la passion d'une vie.
Je trouve que les journalistes d'aujourd'hui sont...
partent dans tous les sens, sont multiples et tous différents et difficiles à mettre dans le même panier, dans un même sac.
Un bon journaliste, c'est un journaliste qui
est curieux avant tout.
Le foot pour moi est une
façon de vivre, j'ai envie de te dire.
Le plus drôle quand on me reconnaît dans la rue,
c'est quand on me dit m'avoir vu sur M6 ou Bein, deux chaînes, alors j'ai bossé sur 4-5 chaînes quand même, deux chaînes où je n'ai jamais travaillé, et qu'on arrive vers moi avec la certitude et la volonté, et en me disant que je suis incroyable et que c'est génial de me voir et qu'il faut absolument une photo. Et quand je leur dis mon prénom et mon nom, du genre vous avez dû vous tromper, la personne est encore plus contente parce qu'elle est sûre que c'est bien la personne qui colle à la chaîne. Bon, finalement, c'est pas grave. Et c'est marrant.
La chaîne, d'ailleurs, où j'ai pris le plus de plaisir à travailler, c'est...
Oh, c'est trop dur, ça, parce que j'ai eu des kiffs énormes sur C8, sur la chaîne L'Équipe. Et sur TF1 LCI, bonheur total. Voilà. Et alors là, j'ai pas signé. Tu vas pouvoir remarquer que j'ai pas signalé ma présence sur CNews, mais parce que je me levais à 2h30, 3h du mat pour les matinales. Donc ouais, forcément, on peut pas dire que c'est le bonheur ultime. Mais pourtant, les équipes et les gens avec qui j'ai présenté les sports ou 20h foot, c'était génial aussi.
Sans le journalisme, je serais...
Je serais chef d'entreprise, peut-être dans la restauration. Où là, ces dernières années, avec plus de temps, j'aurais peut-être monté mes centres de terrain de padel.
La vente au MC.
C'est une aventure formidable.
J'aimerais dire à Estelle Denis que...
Je l'aime toujours autant.
Le plus excitant dans mon métier, c'est...
De rencontrer des gens tous les jours différents, avec des parcours différents et des vies et des cultures différentes.
Pour moi, ma fille, c'est...
Tout.
Je suis fort au padel, mais meilleur au...
Football.
Si je devais utiliser trois mots pour décrire mon état d'esprit, je dirais...
Ouvert, passionné et état d'esprit, ben c'est très bien déjà.
Mon interview du jour était...
Formidable.
Ben merci en tout cas.
Merci à vous tous.
Ça a été un plaisir de te recevoir. On va également remercier Unissa qui nous fait enfin le plaisir d'être là et Arthur à la caméra. Et on remercie également Jason sans qui l'émission n'aurait pas pu être réalisée. Jason à la technique. C'est Marc Maury qui me disait ça il y a deux semaines. J'ai rencontré Marc Maury et je lui ai demandé est-ce que vous pouvez me donner un conseil pour ma carrière future de journaliste. Et il s'est arrêté, il m'a dit, le seul conseil que j'ai à te donner, c'est de toujours remercier les techniciens. Il n'y a pas de bonne émission sans bon technicien.
Exactement, donc, de connaître les gens avec qui tu travailles. J'ai vu trop aussi de gens qui font que passer et qui ne se rendent pas compte qu'en effet, il n'y a pas de lumière sans technicien, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de bon travail sans que ce soit collectif. Et ça, c'est aussi l'école de la vie, mais beaucoup de gens qui oublient ça.
Donc on prend encore le temps de les remercier, Unissa, Arthur et Jason à la technique. Cette émission, bien évidemment, elle est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon et j'en passe. Et bien évidemment, sur la chaîne YouTube, Mon Paris FM. Merci encore une fois, Thibaut Bézérian. Et nous, on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité.
Donc la morale, tu vas la faire à d'autres. Là, je suis pas bien.